la rencontre spirituelle aujourd'hui, nous avons plusieurs saints, et en particulier Sainte Élisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe, qui est morte en 1231. C'est assez curieux. Hier, on avait, je voulais mentionner, non seulement Sainte Gertrude, mais il y avait aussi Sainte Marguerite d'Écosse, cette princesse, cette reine d'Écosse. C'est à croire que si on veut devenir saint parfois, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de devenir reine. Mais c'est bien difficile. On est tous un peu roi ou reine d'un certain milieu, d'un petit domaine. Reste à savoir ce qu'on en fait. Et ces femmes-là ont su faire de leur domaine, de leur royaume, une œuvre de charité, de don d'elle-même absolument étrange, étonnant. Et Élisabeth de Hongrie est une des plus remarquables de ces reines devenues saintes. Elle était duchesse de Thuringe. C'est aussi aujourd'hui la fête de la bienheureuse Salomé, reine encore, et Clarisse. On peut célébrer aussi aujourd'hui les bienheureux Roque González de Santa Cruz, Alphonse Rodriguez, un troisième saint Alphonse Rodriguez, un bienheureux en fait, et Jean del Cassio, qui sont trois jésuites martyrisés en 1628 en Amérique du Sud, alors qu'ils avaient tellement aidé les Amérindiens. Je vous signale d'ailleurs que il y a un an, on a fait un bilan des martyrs, prêtres, religieux, religieuses et frères et laïcs consacrés aussi, simplement au Rwanda. C'était même pas complet, c'était tellement incroyable. Je vous le signale. Et au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Il y a eu au Rwanda 96 prêtres diocésains qui ont été assassinés. 96 prêtres de différents diocèses, dont spécialement 31 d'un seul diocèse de Nyundo et 28 du diocèse de Butare. Imaginez la catastrophe pour l'évêque s'il a survécu. Il y a eu, en effet, trois évêques qui ont été assassinés aussi. En plus des 96 prêtres diocésains, il y a eu 6 prêtres religieux. 3 jésuites, 2 pères blancs, 1 père de Sainte-Croix, dont je vous ai déjà parlé, qui était un Québécois. Je vous en ai même parlé 2 fois de ce père de Sainte-Croix. En plus de ça, il y a eu 64 religieuses qui ont été assassinées, dont 8 bénédictines, 2 filles de la charité, une petite sœur de Jésus que nous aimons tellement, des religieuses de la charité de Namur, des religieuses de l'Assomption, 13 religieuses du bon pasteur, etc. Et pour ce qui est des frères, eh bien c'est 45 frères, dont 28 joséphites et 6 maristes, 4 frères de Sainte-Croix, 2 bénédictins, un franciscain, un frère de la charité, etc., et 28 laïcs de vie consacrée, dont 20 auxiliaires, des femmes qu'on appelle des auxiliaires de l'apostolat, et 8 de l'institut séculier Vita et Pax. Il y en a bien d'autres qui ont été massacrés. Je vous signale ça parce que je vous ai parlé hier de ces 6 jésuites qui ont été massacrés le 16 novembre 1989 au Salvador. Donc, nous passons à Sainte Élisabeth de Hongrie aujourd'hui. C'est une vie intéressante. Elle était dirigée par Conrad de Marbourg, et qui n'était pas facile. C'est en l'an 1207 qu'est née en Hongrie, pays qui avait été christianisé au 11e siècle sous Saint-Étienne, mais troublé par une guerre de succession à la fin du 12e siècle, Donc, c'est là qu'elle est née, Élisabeth. André II, le père d'Élisabeth, a cherché à supplanter son propre frère. Et en 1205, 2 ans avant la naissance d'Élisabeth, il avait réussi à se faire couronner, son frère étant mort. En 1211, une ambassade du landgrave ou duc de Thuringe, cousin de l'empereur allemand, est venu prendre la petite Élisabeth âgée de 4 ans qu'on avait fiancée, imaginée à l'héritier de Thuringe, Louis, un garçon de 11 ans. Tout ça, c'est quand la politique se mêle de tout. Hein? La politique qui se mêle de religion, la politique qui se mêle de mariage d'enfants. Élisabeth, donc, ne sait pas encore lire. Puis devant l'autel, qu'est-ce qu'elle admire, si ce n'est les images du psautier? Elle est agenouillée en prière, dit-on. Elle apprend à faire des génuflexions dans la chapelle. Elle aime ça. Elle organise d'ailleurs des courses. Comme par hasard, le but, bien, c'est la chapelle. Vous savez, ces courses sur une seule jambe, on appelle ça cloche-pied. On faisait ça quand on était jeune. Mais son but de la course, c'est la chapelle. Quand la porte de la chapelle est close, elle baise cette porte. Si elle gagne au jeu, elle remercie Dieu par des géniflexions et des arrêts. Elle donne aux petites filles pauvres la dîme de tous ses gains. Sous prétexte de se mesurer avec telle de ses petites amies, elle s'étend à terre près d'elle. En réalité, elle s'est prosternée devant Dieu. Elle le sent au fond de son cœur. Sa foi est déjà vive. Et si on l'envoie coucher de bonne heure, ben elle achève au lit les prières qu'elle a décidé de faire. Elle est déjà pieuse. Ça existe chez bien des enfants, c'est beaucoup plus surprenant qu'on pense. Je connais dans certaines familles actuellement où la prière familiale est forte, la formation spirituelle, je dirais intensive, mais dans le bon sens du terme, des enfants qui ont un peu cette âme-là. Et la petite Élisabeth, future reine, future Élisabeth de Hongrie, donc prie comme ça dans son lit, et chaque jour, elle veut se priver d'un petit plaisir pour montrer son amour de Dieu. Par exemple, elle se prive d'une petite danse, une petite ronde, alors qu'elle l'a commencé. Elle a commencé la petite danse, puis elle arrête, puis elle dit c'est pour le bon Dieu. C'est naïf, c'est gentil. Elle réussit bien dans un jeu, alors elle l'interrompt aussi. Pour faire plaisir, dit-elle, au bon Dieu. Je suis pas si sûr si ça fait plaisir au bon Dieu d'arrêter un beau jeu. Moi, je suis pas d'accord. Je crois qu'elle aurait mieux fait de continuer son jeu et d'offrir tout son jeu au bon Dieu. Dans la joie, hein? Car Dieu nous aime joyeux, hein? Nous aime pas tristes. J'espère qu'elle faisait ça, le sourire aux lèvres. On écrit d'elle, elle avait humblement Dieu présent à ses regards. Elle l'invoquait dans toutes ses actions. Elle le nommait avec suavité et lui rapportait toutes choses. C'est sa suivante, sa suivante qui s'appelait Gouda, G-U-D-A, presque comme le fromage Gouda. Bon, soyons sérieux. Elle avait une grande dévotion à Saint Jean, l'apôtre ami intime de Jésus. Cet apôtre qu'on dit vierge. Alors Catherine promet à Dieu de se passer de tout ce qui flatterait son corps, particulièrement la vanité. Elle aurait pu y être portée, élevée comme elle l'était. Alors, elle refusait de porter des manches trop ornées, surtout avant les messes des jours de fête. Elle refusait aussi de porter des gants qui étaient trop beaux les dimanches, avant midi, parce qu'il y avait la messe. D'ailleurs, à la messe, elle retirait les colliers, les bagues et les autres ornements qu'elle devait porter étant donné son rang. Et quand le prêtre montrait l'hostie pour l'adoration, elle abaissait le voile de sa tête modestement. En 1221, Élisabeth, à 14 ans, épouse donc le landgrave Louis IV, qui a 20 ans lui maintenant. C'est là que se célèbre le mariage. Le 28 mars de l'année suivante, en 1222, elle a son premier enfant, Hermann. Le 20 mars 1924, deux ans plus tard, c'est une fille, Sophie. Et le 29 septembre 1227, donc trois ans plus tard, son mari Louis étant mort le 11 septembre en Italie, elle met au monde une petite Gertrude. Mais n'allons pas trop vite, reculons dans le temps. Élisabeth est une jeune femme, fort aimante, c'est sûr, mais elle fait la part de Dieu, et cette part de Dieu devient envahissante dans sa vie. Elle mène ses suivantes, elle a toujours cette cour autour d'elle, ses suivantes, elle les mène à l'église, très souvent. Elle arrive bonne première. Elle peut exécuter seule devant Dieu ses génuflexions. Elle aime bien être autonome. Elle a du caractère. Quand elle est en oraison, son mari Louis, avant sa mort évidemment, la prie parfois de se reposer. Il prend une de ses mains dans sa main. Élisabeth a ordonné à une suivante de la réveiller la nuit pour prier, en la tirant par le pied. Une fois, Isantrude, quel étrange nom, n'est-ce pas, une de ses suivantes, s'est trompée, puis elle a tiré le pied de son mari, Louis, qui avait allongé sa jambe du côté d'Élisabeth, et mis au courant, ben, il a admis la méprise. Élisabeth s'endort quelquefois sur le tapis en priant devant lui, puis elle explique, « Comme je ne puis sans cesse prier, je fais du moins violence à ma chair en m'éloignant de mon mari bien-aimé. » Car elle l'aimait profondément, paraît-il. Et vers 1223, elle prend pour directeur un franciscain, Rüdiger, ou Rodeger. Des visiteuses plutôt nobles qui viennent la visiter, lui rendent hommage, eh bien elle parle de Dieu, elle aime les vêtements simples. Elle aime même les vêtements rustiques, ce qui est absolument unique dans sa classe sociale. Pour ces relevailles, vous savez qu'à cette époque, quand on mettait un enfant au monde, il y avait des relevailles, une cérémonie de purification, comme on voit la purification de la Sainte Vierge, la présentation de Jésus au temple, etc., toutes ces choses-là. Ce sont des coutumes d'autrefois. Hein? Donc, il y avait des relevailles. Comme si une mère qui a accouché d'un enfant avait besoin d'être purifiée, je trouve ça insensé, mais c'était la coutume. Respectons les coutumes de nos ancêtres, nous avons nous-mêmes des coutumes aujourd'hui qui feront peut-être rire nos descendants. Et alors donc, pour ses relevailles, elle se rend à l'église vêtue pauvrement et nu-pied. Elle file la laine avec ses servantes, ce qui était rare pour une femme de son rang. Elle est séduite par la pauvreté franciscaine. Elle aime même s'habiller à l'occasion en mendiante. Elle dit, c'est ainsi que j'irai lorsque je mendierai et subirai l'adversité pour l'amour de Dieu. Elle rêve d'ailleurs d'une petite ferme où elle sera une espèce de petite bergerette avec son mari Louis pour fermier. Ça rappelle Marie-Antoinette, hein, à Versailles, qui s'était fait construire une maison qu'on appelait de ferme. Je l'ai visitée, c'est une belle maison quand même. Ses suivantes déclaraient qu'après sa mort, il disait après sa mort, dès l'adolescence, Élisabeth était toute à la religion, dirigeant son intention et ses actions vers Dieu. Elle avait humblement Dieu devant les yeux. Et elle l'invoquait dans tous ses actes, le nommait avec douceur. Elle dirigeait tout vers lui. Vous savez, des témoignages comme ça, ce sont de très beaux témoignages. C'est des témoignages qui vraiment indiquent qu'il ressentait chez elle non seulement la conviction que Dieu existe, mais la certitude que Dieu est vivant, que Dieu est quelqu'un. Pour dire d'Élisabeth, elle dirigeait tout vers lui. Elle le nommait avec douceur. Elles ajoutent les suivantes, même du vivant de son mari, Élisabeth vivait en religieuse, humble et très charitable, très adonnée à l'oraison. Quel dommage qu'on appelle ça vivre en religieuse. Pourquoi qu'elle ne vivait pas simplement en laïque? Comment ça se fait que nous, les laïcs, on ne soit pas plus religieux dans le sens vaste et profond du terme? Nous devons nous référer aux religieuses, aux religieux, qui sont des modèles en principe dans notre société. C'est signe peut-être que les religieux et les religieux sont souvent très bons, et très charitables, et très humbles, et très adonnés à l'oraison. Élisabeth visite les pauvres. Elle les visite même s'ils sont terriblement mauvais, dit-on. Elle s'approche d'eux, elle ne dit rien, elle ne fait aucune remarque. Elle coud des robes pour les petits pauvres qu'elle tient sur les fonts baptismaux. Et elle fait de ses propres mains la toilette funèbre des très pauvres, des sans-logis qui sont morts. Au jeudi saint, au moment du lavement des pieds, elle réunit une fois des lépreux et elle baise leurs pieds. Elle n'est pas gênée, Ça aurait pu être pris pour de l'ostentation, de la prétention. Elle ne se gêne pas pour pratiquer l'évangile totalement, même si les gens peuvent critiquer et dire qu'elle avait perdu la raison. Ça ne la décourage pas. Elle est contente de s'empresser auprès d'un mendiant qui est couvert d'ulcères. C'est Isantrude, sa suivante, qui dit, elle riait. Elle était de bonne humeur. Elle n'éprouvait pas plus d'horreur des lépreux que des personnes saines. Elle accomplissait toutes les œuvres de charité dans la plus grande joie de l'âme et sans changer de visage. Voilà qui est un bon signe d'équilibre. Voilà une sainte intéressante, intelligente, joyeuse. Vraiment une grande sainte que cette Élisabeth de Hongrie. C'est l'impression qu'elle me laisse par tous ces témoignages. D'ailleurs, si elle fait risette, si on peut dire, à la souffrance, pour apaiser la souffrance, elle sait aussi pleurer dans la joie. Et elle pleure paisiblement. Elle dit de ceux qui sanglotent, on dirait qu'ils veulent faire peur au Seigneur. Qu'ils donnent donc à Dieu ce qu'ils ont avec plaisir et joie. Mais oui, un triste saint, un saint triste. Son mari, Louis, hélas, toujours jeune, car on est encore avant la mort de Louis, là, son mari est bien trop souvent absent, par devoir d'État d'ailleurs. Elle prie à genoux une partie des nuits. Elle a fait vœu de continence perpétuelle à un moment donné, si elle survivait à son époux. Et il est arrivé tout à coup une famine dans l'hiver de 1225. Et tandis que Louis était absent, Élisabeth a pris sur elle de faire distribuer les réserves de blé qui appartenaient au duché. Elle a vendu ses propres parures. Elle est demeurée près du peuple très pauvre pendant les moments de grande chaleur. Elle supportait en riant tous les déplaisirs de cette façon de vivre qu'elle était obligée d'avoir étant duchesse. Sa maison s'est transformée en hôpital. D'ailleurs, les bonnes gens l'appelaient petite mère. Enfin, son mari, Louis, est revenu. Alors, plus de 1000 fois, elle l'a baisé tendrement sur la bouche devant tout le monde, ce qui était exceptionnel. Elle ne se gênait pas, elle l'aimait. Mais de nouveau, il a fallu séparer. Louis part pour la croisade le 24 juin 1227. Et elle s'écrie devant tout le monde, « Malheur à moi, pauvre femme. » Car Élisabeth est enceinte, vous savez, elle a mis un enfant au monde quelques jours après la mort de son mari. Son mari est mort en Italie le 11 septembre. Il est mort. Et sa femme Élisabeth semble être devenue folle. Et on dit d'eux, ils s'aimaient d'un amour merveilleux, s'encourageant doucement l'un l'autre à louer Dieu et à le servir. Or, après la mort de son mari, elle ne fut pas autorisée pour un temps à user des biens de son mari. Elle en a été empêchée par le frère de son mari. Elle aurait pu, il est vrai, avoir l'entretien avec le frère de son mari, l'entretien de ses biens, mais elle ne voulut pas recevoir sa nourriture du vol et de l'exaction des pauvres, car son beau-frère arrachait l'argent des pauvres. Et c'est souvent pratiqué comme ça dans la cour des princes à l'époque. Est-ce que ça n'est pas encore pratiqué ici et là par nos grands politiciens? Paraît-il, certains qui heureusement aujourd'hui sont accusés et condamnés. Alors Élisabeth choisit d'être rejetée et de gagner sa nourriture comme une salariée du travail de ses mains. Elle choisit librement la pauvreté. Elle abandonne son château et même ses enfants. C'était l'hiver. Or, le premier gîte de la duchesse Élisabeth fut une ancienne porcherie. On pense à l'étable de Bethléem, puis ce sont 1000 tracasseries. Élisabeth remercie les murs qui l'ont abritée. Elle dit, je remercierai volontiers les personnes, mais je ne sais de quoi. Et sa suivante, Isantrude, déclare, persécutée sans raison par tous les vassaux de son mari, privée de tous ses biens et contrainte par l'indigence, elle a envoyé ses enfants en différents lieux éloignés, afin qu'ils y fussent bien élevés et bien choyés. Un jour, une vieille pauvresse, raconte-t-on, bouscule la duchesse qui est tombée dans un trou abominable. Elle se relève en riant et va se nettoyer. Imaginez, quelle patience! Et pendant carême, alors qu'elle est fiévreuse, elle a une extase. Et elle déclare, « Seigneur, tu veux être à moi et moi je veux être à toi, et jamais je ne veux être séparé de toi. » On devrait tous faire de cette prière notre prière très souvent. Surtout au lever le matin. « Seigneur, tu veux être à moi, et moi je veux être à toi, et jamais je ne veux être séparé de toi. » Conrad de Marbourg, son directeur spirituel, écrivait en 1232 au pape Grégoire IX, « Tendant à la plus haute perfection, elle m'a demandé si elle pouvait acquérir plus de mérite dans la réclusion ou au cloître ou en quel autre état. » Et elle s'arrêta enfin à ce dernier désir qu'avec bien des larmes, elle me pria d'exaucer, lui permettre d'aller mendier de porte en porte. Alors son directeur Conrad de Marbourg s'est opposé net à ce vagabondage. Et alors, le vendredi saint, 1228, quand les autels étaient dépouillés, ayant posé la main sur l'autel dans une chapelle de la ville où elle avait installé ses frères, des frères mineurs, des franciscains, en présence de quelques frères, elle a renoncé à ses parents, à ses enfants, à sa volonté propre, à toutes les pompes du monde et aux choses que dans l'Évangile le Seigneur conseille d'abandonner. Et son directeur, Conrad de Marbourg, empêcha Élisabeth de renoncer à ses biens afin qu'elle puisse payer les dettes de son mari, Louis, décédé. Probablement des messes et des fondations pieuses. Et pour qu'elle secoure aussi les pauvres avec le revenu de son douaire. Et nous avons vu qu'elle avait dû tout quitter. Elle est devenue une femme pauvre. Et elle avait récité cette belle prière, n'est-ce pas, Seigneur, tu veux être à moi, et moi je veux être à toi, et jamais je ne veux être séparé de toi. Et son directeur de conscience l'empêche de se débarrasser de tous ses biens. Mais cependant, l'oncle d'Élisabeth, évêque de Bamberg, lui a suggéré de se remarier. Il l'envoie réfléchir dans un château de Haute-Franconie en 1228, elle est encore très jeune, hein, dans la cathédrale de Bamberg, elle a reçu les ossements de son époux, Louis, qui était mort en Italie, comme vous savez, l'année précédente. Et elle s'écrit, « Seigneur, je te rends grâce de m'avoir consolé avec miséricorde par ces ossements de mon mari que j'ai tant désiré. » Elle avait beaucoup désiré de retrouver les ossements de son mari. « Si grand que fut mon amour pour lui, tu sais que je ne me repens pas de ce sacrifice du bien-aimé qu'il t'a offert lui-même et que je t'ai offert pour le secours de la Terre Sainte. » Cette croisade était faite pour aller libérer la Terre Sainte, les lieux saints, où Jésus est né, a grandi, où il a souffert, où il est mort, où il est ressuscité. Cette Terre Sainte qui avait été envahie et occupée par les musulmans. C'est pour ça la croisade. Pour se situer dans le temps. Sa suivante écrit, après la sépulture de son mari, tous ayant négligé ses intérêts, elle se trouva dans la même pauvreté et la même indigence qu'auparavant. Alors vers l'été de 1228, elle s'est rendue à Marbourg, en Hesse, aux confins des terres de son mari Louis, décédé, près de son directeur Conrad de Marbourg. Elle craignait d'être gênée par le bruit du monde. Conrad de Marbourg avait négocié un statut économique d'Élisabeth avec son beau-frère Henri Raspe, un garçon sans caractère qui redoutait les frasques mystiques de sa belle-sœur. Alors, elle devait recevoir 2000 marques, des biens fonciers en usufruit, des objets précieux qu'elle avait apportés de Hongrie, et toute la noblesse de Thuringe tenait cette pauvre veuve pour une insensée, malade mentale, quoi. Alors, elle a pris l'habit gris. Oui, il était gris dans le temps, l'habit gris des tertiaires de l'ordre de la pénitence. Et sans doute, son idéal à Élisabeth et sa pratique dépassaient de beaucoup la règle donnée par Saint François aux chrétiens vivant dans le monde, mais elle s'en contenta extérieurement avec humilité. Son détachement était très grand, paraît-il. Voici que je considère comme de la boue les biens de ce monde que j'aimais autrefois. Et c'est assez particulier des saints de cette époque. Voici ce qu'elle ajoute. Bon, je ne vous conseille pas ça. Dieu m'est témoin que je ne me préoccupe plus de mes enfants, que je les aime comme j'aime mon prochain. Je les ai confiés à Dieu, qu'il fasse d'eux ce qu'il lui plaît. Je me réjouis des calomnies, des médisances et des mépris. Je n'aime rien que Dieu. Or, au début de 1229, elle confie à d'autres sa petite Gertrude âgée de 18 mois. Les deux autres enfants sont en pension. Elle veut être libre pour courir à Dieu. Pas des choses à recommander. Toutefois, dans cet excès d'amour de Dieu, il faut bien prendre en considération les coutumes. Il faut prendre aussi en considération que ses enfants ont été bien placés. C'est le même problème qui s'est posé ici chez nous à Québec au début de la colonie, quand est arrivée Marie de l'Incarnation, Marie Guyard. Marie Guyard avait laissé son fils de 9 ans entre les mains de son frère, peut-être le Bernard si je me souviens bien, qui l'a bien élevé, même si son fils a été plus ou moins révolté du départ de sa mère qui est entrée chez les Ursulines et partie pour Québec. Mais à la suite de cette immense séparation, qu'est-ce qui est arrivé à son fils? Il est devenu bénédictin dans la congrégation de Saint-Maur, grande congrégation de savants moines, et ce grand bénédictin est même devenu abbé de son monastère. Espérons que les enfants de notre sainte d'aujourd'hui ont bien tourné. Avec l'argent qu'elle avait, elle a aménagé un hôpital. Et Élisabeth fait manger à sa table des pauvres. Elle désire soigner les contraires par les contraires. Et jadis princesse, elle entend maintenant les servir. Son directeur de conscience, maître Conrad de Marbourg, croit bon de la priver de ses chères suivantes. Elles sont remplacées par une fille qu'on appelle de basse extraction, c'est l'expression, hein, mais aussi par une veuve noble, sourde et sévère. Alors la jeune fille va aiguiser l'humilité d'Élisabeth, et la veuve va accroître sa patience puisqu'elle est sévère et sourde. Alors le père Conrad lui donne encore des filles pauvres pour l'aider. En fait, Élisabeth choisit les corvées, tout ce qui est de plus ennuyeux et de plus répugnant. Elle veut qu'on la tutoie, ce qui est absolument exceptionnel pour l'époque. Et ses scrupules en matière de pauvreté vont loin. Elle reproche à des moines mendiants d'avoir en leur église des images luxueuses. Car elle dit que de leur prix, ces moines mendiants auraient dû se nourrir et se vêtir. Elle tombe dans les excès. Hein? Comme on lui offrait une icône belle et riche, elle dit « Je n'en ai pas besoin puisque je la porte en mon cœur. » C'est beau. Je trouve ça très beau. Moi, j'en ai de belles icônes chez moi et ça ne m'empêche pas de dire qu'elle a raison. Au fond, la pauvreté total, pourquoi pas, hein? Et Élisabeth soigne un petit orphelin paralysé. Elle se lève à cause de lui 6 fois par nuit. Elle lave de ses mains ses linges qui sont tout tachés. Et quand l'enfant est mort, elle prend une jeune lépreuse. Elle dit « Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa chaussure à celle qui tient pour moi la place de Jésus-Christ. » Elle se rend compte que le pauvre, c'est Jésus-Christ. Ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. Et quand, au jugement dernier, quand donc, hein, demandent les gens qui sont acceptés au paradis, quand donc, puis Jésus dit, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est une doctrine admirable que cette doctrine. Son directeur de conscience, Conrad, la prive de sa lépreuse. Alors elle adopte un petit teignier couvert de poux, qui n'a plus de cheveux d'ailleurs. Et l'enfant était auprès d'elle quand elle est morte. Des pauvres gens qu'on vient de baigner manquent de linge, alors elle prend un voile de lin, une tenture ou un rideau qui orne son logis. Elle le coupe, le découpe et l'arrange. Puis elle dit « Quelle joie pour nous de baigner, de couvrir ainsi notre Seigneur. » Tant qu'on n'a pas considéré les pauvres comme notre Seigneur, on est encore un peu loin de l'Évangile. Hein? C'est pas facile. Mais cette grâce nous est donnée. J'en suis convaincu. Conrad de Marbourg veut la mortifier dans sa manie de donner aux pauvres. Apprenant qu'elle ruse en donnant par des intermédiaires, il va jusqu'à la frapper au visage. Je vous ai dit que son directeur de conscience était dur, je l'avais dit au début. Hein? Et alors, maintenant, elle devient une contemplative assez forte pour supporter tout cela. Au sortir de l'oraison, son visage est transfiguré, ses yeux sont radieux. Élisabeth passe des heures ravie en esprit. Elle jeûne beaucoup. Elle en vient à regretter d'avoir été mariée. Car, dans l'erreur qu'elle commet, elle croit que la Vierge est davantage à Dieu. C'est une erreur. Les saints ont parfois des idées un peu chagrinées, mais ça ne les empêche pas d'être des saints. Pour, Il faut tenir compte de l'époque, tenir compte des enseignements parfois un peu erronés, des exagérations qui ont surgi dans l'histoire. Mais la santé d'Élisabeth est finalement délabrée. Et le 16 novembre 1231, elle se confesse. C'est aujourd'hui le 16 novembre 1231, elle se confesse, elle déclare que tout ce qui lui reste devra aller aux pauvres. Elle meurt vers minuit, âgée de 24 ans. On l'a enterrée le 19 à Marbourg, où logeait son directeur. Des miracles éclatèrent et des pèlerinages se sont organisés. Pour la Pentecôte 1235, donc 3 ans et demi plus tard, Grégoire IX l'a canonisé. En 1671, la fête a été imposée à toute l'Église et le crâne d'Élisabeth a été déposé à l'archevêché de Bruxelles. Une expertise médicale, d'ailleurs, a trouvé que ce crâne était celui d'une femme de 25 ans environ, l'âge d'Élisabeth au moment de sa mort. Des associations, des œuvres de bienfaisance l'ont choisi pour animatrice. Et Léon XIII, le grand pape, en 1885, l'a proposé en exemple à toutes les jeunes filles et aux femmes d'Allemagne. Et dès le XIIIe siècle, elle présidait avec Saint-Louis de France le tiers-ordre franciscain régulier ou séculier. Et depuis 1913, l'ordre des franciscains célèbre leur fête au rite de première classe. Elle est classée comme une des grandes saintes franciscaines. J'aimerais apporter une petite correction. J'ai dit que c'était le 16, aujourd'hui c'est le 17. Et en effet, la fête de Sainte-Élisabeth de Hongrie a été portée au 17 novembre dans le nouveau calendrier et le nouveau bréviaire. J'ai justement mon bréviaire devant moi et je vois bien que c'est le 17, je ne me suis pas trompé. Et j'aurais le goût de vous lire des extraits de l'office de lecture. C'est une lettre de Conrad de Marbourg, directeur spirituel, je vous le rappelle, de Sainte-Élisabeth. Et ce petit texte est très beau. C'est une lecture qui est faite par tous les moines et tous les prêtres et les religieux, les religieuses qui récitent le bréviaire aujourd'hui. Voici ce texte. Élisabeth se mit alors à manifester ses vertus. Toute sa vie, elle avait été la consolatrice des pauvres. Alors, elle devint entièrement le soutien des affamés. N'oubliez pas que c'est une laïque, hein? C'est une laïque. Bon. Je continue la lecture. Elle ordonna que près d'un château qui lui appartenait, on construisait un hôpital où elle accueillit beaucoup de malades et d'infirmes. Là, à tous ceux qui demandaient l'aumône, elle distribua largement les bienfaits de sa charité. Et non seulement à cet endroit, mais encore dans tout le territoire placé sous la juridiction de son mari. Et elle épuisa si bien tous ses revenus, provenant des 4 principautés de son mari, qu'elle finit par vendre tous ses objets de luxe et tous ses vêtements pris au profit des pauvres. Elle avait l'habitude de visiter personnellement tous ses malades 2 fois par jour, le soir et le matin. Ainsi, elle prenait soin elle-même des plus répugnants. Elle nourrissait les uns, couchait les autres, emportait certains sur ses épaules et leur rendait beaucoup d'autres services de bienfaisance. Son mari, d'heureuse mémoire, n'a jamais manifesté de mauvaise volonté à cet égard. Enfin, après la mort de son mari, pour tendre à la plus haute perfection, elle me demanda, en pleurant, de l'autoriser à mendier de porte en porte. Je vous rappelle que c'est son directeur spirituel qui écrit tout ce texte. Le jour du Vendredi Saint, comme les autels étaient dénudés, les mains posées sur l'autel d'une chapelle de sa ville où elle avait logé des frères mineurs, en présence de quelques-uns d'entre eux, elle renonça à sa volonté propre, à toute vie mondaine et à tout ce que le Sauveur dans l'Évangile nous a conseillé d'abandonner. Cela fait, voyant qu'elle pourrait être dominée par l'agitation du siècle et la gloire mondaine de cette terre où elle avait brillamment vécu du vivant de son mari. Elle me suivit malgré moi à Marbourg. Là, elle construisit un hôpital dans la ville. Y recueillit les malades et les infirmes, y accueillit à sa table les plus pauvres et les plus méprisés. Malgré ses œuvres de la vie active, je le dis devant Dieu, j'ai rarement vu une femme plus contemplative. En effet, des religieuses et des religieuses, comme elles sortaient de l'oraison silencieuse, virent plus d'une fois son visage merveilleusement illuminé et ses yeux rayonnants comme le soleil. Avant sa mort, j'entendis sa confession. Comme je lui demandais ce qu'il fallait faire de sa fortune et de son mobilier, elle répondit que tout ce qu'elle paraissait posséder encore appartenait aux pauvres. Elle me pria de le leur distribuer, excepté une tunique grossière qu'elle portait et dans laquelle elle voulait être ensevelie. Ses dispositions prises, elle reçut le corps du Seigneur. Puis jusqu'à l'heure de vêpres, donc fin d'après-midi, elle parlait fréquemment de ce qu'elle avait entendu de meilleur dans la prédication. Ensuite, en recommandant très pieusement à Dieu toutes les personnes présentes, elle expira très doucement, comme si elle s'endormait. Or, dans le bréviaire, on nous donne cette oraison. On peut prier ensemble. Dieu, Père, qui a donné à Sainte Élisabeth de Hongrie de connaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et l'affliction. Quelle belle fête que la fête de Sainte Élisabeth de Hongrie, qui nous rappelle tout ce que nous devons faire pour les plus malheureux. Je vous ai dit au début que c'était la fête de la bienheureuse Salomé, reine et Clarisse, qui est morte en 1268. Eh bien, Salomé, c'est un nom hébreu. On sait que ça a été illustré dans l'Évangile, n'est-ce pas, par la mère des apôtres Jacques et Jean, hein? Et puis aussi par la fille d'Hérode et d'Hérodiade. Hein? Salomé, ça signifie pacifique. Bon, notre Salomé, à nous, elle était la fille du prince de Pologne, Leszek. Et quand elle a eu 3 ans, vers 1205, le bienheureux Vincent Kadlubek, archevêque de Cracovie, a reçu mission de la conduire à la cour du roi Henri II de Hongrie. Imaginez. Croyez-le, croyez-le pas, elle n'avait 3 ans. Et elle devait épouser Coloman, fils d'André, qui venait apprendre les usages du pays. Or, heureusement, on a attendu qu'elle eût 13 ans pour célébrer le mariage. Et son Coloman, son mari, devenait duc de Galicie. La Galicie étant la dot de Salomé. Donc la princesse a vécu en nonne plutôt qu'en reine. Elle est devenue tertiaire franciscaine, encore une autre. L'importance de la pensée franciscaine, la pensée évangélique audacieuse. Alors là, la cour, bon gré mal gré, est devenue assez dévote par la force des choses. Ça ne devait pas plaire à tout le monde. Et alors Coloman, son mari, a été premier roi de Galicie, puis il a été tué vers 1225 en combattant les Tartares. Salomé, qui avait 23 ans, a continué sa vie austère, pieuse et bienfaisante. Une véritable providence pour les franciscains. Elle a fondé un couvent pour les Clarisses à Zavikost, où elle s'est retirée vers 1240, soit 38 ans, en laissant le gouvernement à son frère. Elle a vécu 28 ans en religion. Et les vertus de notre Salomé, son expérience du monde, ses hautes relations, l'ont fait choisir pour abbesse et elle est morte le 17 novembre 1268. Salomé a été enterrée à Cracovie, près de son mari Coloman. Le pape Clément X, qui a régné de 1670 à 1676, donc 400 ans plus tard, a confirmé le culte qui lui était rendu. Elle est fêtée par les franciscains et, évidemment, par les polonais. C'est ce pape Clément X qui est intervenu dans l'élection, vous savez, du roi de Pologne. Vous vous souvenez, c'est lui qui a obtenu la nomination de Jean Sobieski, dont je vous ai parlé, qui avait été fameux pour avoir battu les Turcs. Je vous signale aussi que c'est la fête des bienheureux jésuites martyrs, dont je vous ai donné les noms tout à l'heure, Roque González de Santa Cruz, Alphonse Rodriguez et Juan del Castillo. Ils ont été assassinés en Amérique du Sud, car l'œuvre civilisatrice des jésuites au Paraguay fut dans une large mesure une réussite. C'est Voltaire qui voyait là une espèce de variante du despotisme éclairé et qui applaudissait quand même. Mais cette réussite a été payée par bien des peines et bien des efforts. On a pu le voir dans le film Mission, comme on dit en anglais. En 1628, donc ces trois pères de la Compagnie de Jésus ont été mis à mort par les indigènes eux-mêmes. Quelle tristesse, quelle tristesse. Roque González était né à Asunción, au Paraguay, en 1576. Il était prêtre en 1598. Curé de la cathédrale d'Asunción, vicaire général. Il est entré dans la compagnie à 33 ans, en 1609, car il voulait refuser les honneurs. Il avait peur de l'épiscopat. Ses supérieurs l'ont envoyé évangéliser les Amérindiens dans la forêt. Il a organisé de ces groupements, des réductions, comme on dit, qui sont destinés à apprivoiser les indigènes à la religion catholique, à la culture européenne. Quant à Alphonse Rodriguez, il était né en Espagne, tout près du Portugal. Il est entré à 16 ans chez les jésuites, qui est embarqué pour l'Amérique en 1616, à 18 ans. Ordonné prêtre, il a évangélisé les Amérindiens. Quant à Juan del Castillo, qui était né à Tolède, il est entré chez les jésuites à 24 ans, en 1614. Et deux ans plus tard, il partait, puis il enseignait au Chili. Il a exercé son ministère dans les réductions. Et le père González fut tué le 15 novembre 1628 dans la réduction de Toussaint au Brésil, dans le sud du Brésil, fondé 15 ans auparavant. Quant au père Rodriguez, qui survenait attiré par les cris, il a lui aussi été assassiné, il n'avait que 30 ans. Et le père del Castillo lui est mort dans la nuit du 16 au 17 novembre, tué dans la réduction d'Asunción, fondée par le père González le 15 août précédent. Et on s'est ingénié, le pauvre lui, à le faire souffrir. Ces merveilleux jésuites, encore d'autres martyrs jésuites, ont été béatifiés en 1934.